L'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Emmanuel Macron exprime l'émotion et la solidarité de toute une nation après les violentes intempéries dans l'Aude. Le bilan provisoire revu est de 10 morts. La vigilance rouge est maintenue dans le département. Début du marathon budgétaire à l'Assemblée, le gouvernement souligne les réductions d'impôts pour les ménages quand l'opposition dénonce des mesures anti-pouvoir d'achat. Brexit, tout n'est pas perdu selon Theresa May. L'Union européenne et le Royaume-Uni ne doivent pas laisser le désaccord sur la frontière irlandaise faire dérailler l'accord sur le Brexit, déclare la première ministre britannique devant la Chambre des communes. Et puis Donald Trump envoie son secrétaire d'État Mike Pompeo à Riyad pour parler de la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Il a été question de 13 morts, mais ce soir, la préfecture de l'Aude fournit un bilan, toujours provisoire, de 10 morts, 8 blessés et une personne disparue à la suite des pluies violentes qui ont entraîné de graves inondations dans le département. Parmi les communes les plus touchées, celle de Villegayenc, où Stéphane Iglesis est allé à la rencontre des habitants.
Pont central du village balayé, effondré, voitures entassées les unes sur les autres, meubles qui sont stockés dans la boue, gravats devant les maisons, tout est allé très vite et André parle même d'apocalypse.
C'est dantesque, moi j'ai pas de mots là, parce que on est tous un peu angoissés là. Et on a vu une inondation en 99, mais ça avait débordé, mais non, ça n'avait pas fait des dégâts. Mais on a été tous surpris parce que c'est arrivé à. Ça commençait à 11h, mais le gros c'était à. Parce que moi je suis monté de suite dans les étages, et le gros ça a été à 2h du matin. Là vous aviez un fleuve, pas une rivière, un fleuve, un truc de fou. C'est l'apocalypse.
Dans la maison de Régis, pourtant toute neuve, au rez-de-chaussée, il ne reste plus rien, sinon des meubles pleins de boue.
Vraiment plus rien. J'ai le placo et tout a sauté. Et jusqu'à ce matin 8h que l'eau est descendue, j'ai pu escalader un peu partout. Et j'ai vérifié là, jusqu'à que la rue diminue, et après j'ai sorti mon fils et tout par la fenêtre, et voilà quoi. Là je peux même plus habiter, regardez. Tout est saccagé, je veux dire, il y a du gravat, j'ai tout perdu. J'ai toute une vie là qui. Voilà. Ça fait un an que j'habite ici. Même pas, la maison elle venait d'être finie là. Elle était neuve. Ils avaient dit à la météo comme vigilance orange et tout ça, mais on s'attendait pas à autant de ça quoi.
Effectivement, les habitants ont tous été surpris par la rapidité de la montée des eaux en pleine nuit. Ils n'avaient pas protégé leurs habitations. Certains dormaient même au rez-de-chaussée à proximité du ruisseau malgré l'alerte orange. Un système d'alerte qui n'a donc pas parfaitement fonctionné. Peut-être parce qu'il est trop souvent déclenché, se dit Micheline, une habitante du village sinistré.
Tout cet été, on a eu des alertes météo, orange. Attention, on n'avait pas une goutte de pluie. Donc hier, j'arrivais d'une promenade avec le club des chanteurs là, de Occitan. Je vois sur mon téléphone une alerte orange. Bof, hein ? Pourquoi ? Après tout, pourquoi ? Pourquoi s'embêter ? J'étais fatiguée, je suis allée au lit, ma fille aussi. J'ai bien entendu la pluie taper contre les volets. Mais je l'ai déjà entendu, cette pluie. C'est jamais grave. On est toujours en alerte, et puis en fait, il n'y a jamais rien. Même pas une petite goutte de pluie.
Et vous êtes passé en rouge à 6h du matin, c'était trop tard.
C'est ça, à 6h du matin. D'ailleurs,
6h du matin, c'était fini ici.
C'était terminé. Et la décrue avait déjà commencé, mais le pont était parti. C'est pour ça que la décrue avait commencé. Parce que le pont ayant sauté, jamais je l'aurais cru non plus. Et la décrue s'est faite, et voilà.
Micheline, une habitante de Villegayenc avec Alain Gastal. À Trèbes, l'eau est montée jusqu'à 7 mètres, un niveau sans précédent depuis 1891. D'importants moyens de secours ont été déployés. 350 sapeurs-pompiers locaux sont sur place, aidés de 160 gendarmes. 7 hélicoptères et un super puma des armées sont en renfort. Et puis, le centre hospitalier de Carcassonne a ouvert une cellule d'urgence médico-psychologique pour les personnes en état de choc. Le Premier ministre Édouard Philippe est arrivé cet après-midi dans l'Aude pour se faire une idée de la situation et pour apporter le soutien du gouvernement aux habitants. Il vient d'annoncer une procédure de catastrophe naturelle accélérée. Édouard Philippe.
Il est vrai que l'épisode météorologique était par lui-même imprévisible. Je crois que les spécialistes, dont je ne suis pas, considéraient que la dépression allait circuler plus vite que ce qui s'est passé. Il est vrai aussi que faire passer d'une vigilance orange à une vigilance rouge à 3h du matin, c'est assez facile à dire. Mais pour que l'information arrive à tous ceux qui sont endormis ou à tous ceux qui ne sont pas forcément à l'écoute et on ne peut pas leur en vouloir, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. En tout cas, moi je veux dire combien l'ensemble des services de l'État ont été concentrés, mobilisés, déterminés à apporter les secours et combien nous leur devons. Parce que si le bilan n'est pas plus lourd, si les secours ont pu intervenir rapidement, c'est aussi à eux qu'on le doit.
Le chef de l'État compte également se rendre sur place. Emmanuel Macron, qui s'est déjà exprimé depuis Paris, où il reçoit le président sud-coréen Moon Jae-in. Le chef de l'État fait part de l'émotion et la solidarité de toute la nation à l'endroit de nos compatriotes victimes des inondations dans l'Aude et de leurs familles. Et pour l'instant, la vigilance rouge crue est maintenue sur l'Aude. La vigilance orange crue ou pluie inondation sur l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et l'Aveyron. L'avenir de l'usine Ford de Blanquefort reste compromis. Ce matin, le ministre de l'Économie est venu faire un point d'étape à Bordeaux avec les élus locaux et les représentants syndicaux. Alors qu'une société belge est sur les rangs pour reprendre l'usine girondine, explique Bruno Le Maire, le constructeur automobile américain refuse et préfère fermer le site. Un choix que le ministre juge inacceptable.
La position de Ford est indéfendable. Et ce qui est indéfendable mérite d'être combattu. Concrètement, nous avons mis sur la table des investissements des collectivités locales et de l'État qui sont considérables. 12,5 millions d'euros pour les collectivités locales, 5 millions d'euros pour l'État. Ce sont des chiffres considérables. Concrètement, j'ai pris contact avec le ministre des Finances américain et le conseiller économique du président Trump pour les mobiliser sur ce dossier. Donc j'estime que nous faisons le maximum de ce qui est possible de faire. Et nous allons nous battre jusqu'au bout pour obtenir que la reprise soit l'option retenue par Ford. Et ce matin, je veux mettre Ford face à ses responsabilités. Nous ne laisserons pas faire dans ces conditions. C'est la réputation de Ford comme grand constructeur mondial qui est en jeu.
Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole, dénonce lui aussi l'attitude du constructeur américain. Et les syndicats de l'usine prévoient une mobilisation le 25 octobre à Bordeaux. Bruno Le Maire est à présent à l'Assemblée avec le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Car toute cette semaine, les députés examinent le premier volet du projet de loi de finances pour 2019 sur les impôts et les taxes. Le vote solennel est programmé le 23 octobre. D'ici là, plus de 2000 amendements doivent être examinés. Et l'opposition de gauche est déjà montée au créneau, Alexandra Dubouchereau. Elle tire à boulets rouges sur ce projet de budget.
Oui, ce qui fait bondir ces députés, c'est cette promesse du gouvernement. Une baisse d'impôts de 6 milliards d'euros d'impôts et taxes pour les ménages. C'est un trompe-l'œil pour Christine Pires-Beaune, socialiste, élue socialiste du Puy-de-Dôme et membre de la commission des finances.
On oublie certaines mesures. Vous savez, dans votre portefeuille, vous regardez ce qui vous reste au final. Les 6 milliards, le chiffre est juste. Si on ne prend pas les mesures sociales, si on prend les mesures sociales, on tombe tout de suite à 3,5 milliards. Et si en plus on ajoute les retraites complémentaires, on tombe en dessous de 2 milliards.
Et l'une des mesures qui ne passe vraiment pas du côté des socialistes, c'est la désindexation des retraites et allocations sur l'inflation. Le groupe a d'ores et déjà déposé un amendement dans ce sens. La semaine promet d'être animée. Pas moins de 2000 amendements ont été déposés pour ce premier volet du projet de loi de finances, près du double de l'an dernier. Notamment les députés France Insoumise, Éric Coquerel, élu de Seine-Saint-Denis, également membre de la commission des finances, il donne le ton.
Notre priorité déjà, ça va être de revenir à nouveau sur les cadeaux faits aux actionnaires pour aller vite. Donc là, on a des amendements très forts là-dessus. De refuser les baisses des dépenses publiques de nouveau prévues, qui appauvrissent encore l'État, y compris même au niveau du ministère de l'Écologie. La prévision des risques, c'est des choses incroyables à penser, alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de catastrophes écologiques. Et puis, de permettre de redonner de l'argent au niveau du pouvoir d'achat, que l'impôt soit plus juste.
Et la France Insoumise a présenté ce matin, juste avant le début de l'examen du budget, cet après-midi, son contre-budget. Parmi les mesures phares, notamment une enveloppe de 30 milliards d'euros dès la première année pour l'investissement public en matière écologique.
Alexandra Dubouchereau. Parler de fraternité dans un lieu de privation de liberté, c'est le pari que tente la plus grande prison d'Europe. Depuis le début de l'année, la prison de Fleury-Mérogis a dû faire face à 9 suicides et la direction, critiquée par l'Observatoire international des prisons pour son manque de transparence, a décidé d'afficher la couleur du dialogue. Une association nommée Fraternité Générale, qui organise en France des événements culturels autour des valeurs républicaines, a été invitée à venir débattre avec les détenus et les personnels pénitentiaires. Et Christine Moncla a pu assister à cette première rencontre à Fleury-Mérogis.
Le vent porte les voix des détenus à travers les allées de la prison. 5 bâtiments en forme d'hélice qui abritent plus de 4000 hommes pour 2500 places et un peu plus loin, quelques centaines de femmes également en surpopulation.
Je suis également très fière de les
Nadine Piquet, la directrice de Fleury-Mérogis, a pris l'initiative d'inscrire son établissement dans le programme de l'association Fraternité Générale, présidée par le philosophe Abdennour Bidar et la productrice Fabienne Servan-Schreiber. Première étape, une réunion animée par le philosophe avec quelques quelques détenus, une vingtaine, des surveillants, des enseignants, pour que chacun sorte de son rôle le temps d'une discussion autour de la valeur fraternité.
Je suis contente que ce rassemblement s'opère au bâtiment D2, bâtiment qui a connu des moments difficiles et ça permettra également de démontrer que la prison est certes un milieu fermé, mais la prison fait partie de la société. Et ce lien dedans-dehors, à travers ce mouvement Fraternité Générale, ça c'est pour nous quelque chose de très très important.
Bonjour à chacune et chacun d'entre vous.
Abdennour Bidar a deux heures pour disserter et échanger sur la valeur fraternité. Fraternité, laïcité, ici, sont aussitôt mélangés.
Comment faire, dans tous les espaces où nous nous trouvons, y compris celui-ci, pour redonner un petit peu de réalité à la devise républicaine?
Par exemple, ici en prison, il y a de la fraternité. Par exemple, on ne se connaît pas, on est venu seul ici. Quand il y a quelqu'un qui vient d'arriver, qu'on sait que c'est un indigent ou qu'il n'a rien, on essaie de faire une récolte, on donne des habits, de la bouffe, de la nourriture, des trucs.
La fraternité, c'est pouvoir se mettre à la place d'autrui, vouloir connaître les personnes qui nous ressemblent ou non.
Enchanté. Moi, j'ai l'impression, en fait, que votre concept de laïcité, de fraternité, c'est plutôt une religion, en fait. Vous voulez l'imposer aux Français. Tout le monde doit être fraternel, sinon ça va mener à une guerre civile, alors que c'est complètement faux. Par exemple, s'il y a des musulmans qui ne se sentent pas bien avec des gens de confession juive, et ben, s'ils n'ont pas envie de se mélanger avec eux, ils n'ont pas envie, tout comme l'inverse.
Oui, moi j'ai juste une question. Est-ce qu'on pourrait éviter de mélanger le mot fraternité avec une religion quelconque?
C'est comme si, au fond, on croyait que le fait d'être fraternel, d'être avec d'autres personnes, ça mettait en danger la question de l'identité. C'est comme si derrière cette ouverture, il y aurait une mise en danger de ce que je suis.
Là, par exemple, fraternité, identité, vous ouvrez une porte qui est majeure.
Donc, depuis tout à l'heure, j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit et à aucun moment j'ai entendu de solution.
Mais oui, j'ai pas de solution. Ma seule ambition, c'est qu'enfin, on prenne cette question au sérieux, tous ensemble. Et de tout cœur, je vous remercie.
Moi, je viens de la MAF, et je me reconnais pas du tout dans ce que disent les hommes.
Alors, la MAF, c'est la maison d'arrêt des femmes.
Tout à fait. C'est vrai que chez nous, c'est très communautarisé. Il y a de la fraternité, de la solidarité, mais les Roumaines entre Roumaines, les Blacks entre Blacks...
La fraternité, c'est pas quelque chose qui a cours en détention. Il faut pas se voiler la face. Je répète, c'est une micro-société où c'est pas tous les jours facile. Comme disait un détenu à côté de moi, c'est pas le monde des bisounours. Oui, je confirme.
Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil.
D'autres débats suivront. La direction veut organiser pour le printemps un match de foot entre détenus et surveillants, ainsi qu'un repas partagé. Mais d'ici là, il faudra réussir à impliquer plus de détenus. Ceux qui en auraient le plus besoin n'étaient pas là aujourd'hui, nous confie l'un des enseignants de la prison.
Christine Moncla à Fleury-Mérogis. Un accord de divorce avec l'Union européenne est réalisable. Theresa May l'a redit cet après-midi devant les députés britanniques. Alors que l'Union européenne intensifie ses préparatifs pour le scénario d'une absence d'accord, la Première ministre assure qu'elle continue de travailler pour parvenir à un accord avant le Conseil européen d'après-demain, Aude Soufi.
C'est le moment de garder la tête froide et son calme, a commencé par dire la Première ministre, et il lui a fallu immédiatement mettre ses conseils en pratique. C'est sous les éclats de rire et les cris de nombreux députés que Theresa May s'est adressée au Parlement. Mais elle a répété ce qu'elle avait déjà dit, l'idée de Bruxelles, selon laquelle l'Irlande du Nord resterait dans l'union douanière et le marché unique sans date limite, est inenvisageable.
La création de toute forme de frontière douanière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni signifierait un changement fondamental dans le quotidien des entreprises d'Irlande du Nord, avec potentiellement des effets sur l'emploi et l'investissement.
La Première ministre s'est pourtant dit convaincue qu'un accord était toujours réalisable entre Londres et Bruxelles, mais ce n'est pas l'avis des unionistes nord-irlandais du DUP sur lesquels repose la majorité de Theresa May au Parlement. Dans la soirée, elle doit rencontrer les nationalistes du Sinn Féin qui ont annoncé qu'en cas de no deal, ils demanderaient un référendum sur l'avenir de l'Irlande du Nord.
Aude Soufi à Londres et Theresa May et Emmanuel Macron doivent se parler ce soir. L'accord d'Idlib est-il menacé? Il y a un mois, la Turquie, soutien des rebelles syriens, et la Russie, alliée de Bachar el-Assad, se sont entendus sur la mise en place d'une zone tampon dans la province, dernier grand fief insurgé en Syrie. Mais le principal groupe djihadiste d'Idlib ne s'est pas retiré de la zone dans les délais prévus. Damas indique avoir besoin de temps pour vérifier la mise en œuvre de l'accord. Progressivement, le régime syrien reprend en main des territoires. En témoignant témoigne, il y a des réouvertures de frontières. Le point de passage de Nassib entre la Jordanie et la Syrie a été officiellement rouvert aux civils et aux commerces ce matin, après 3 ans de fermeture. Et le seul point de passage entre la Syrie et la partie du Golan sous contrôle israélien, fermé pendant 4 ans, a également rouvert aujourd'hui. Les forces de l'ONU peuvent donc relancer leur mission d'observation pour faire respecter le cessez-le-feu entre les deux pays, Étienne Monin.
Sur le bord du Golan occupé par Israël, les 3 lourds portails de fer coulissent pour laisser passer des véhicules officiels de l'ONU, symbole d'un premier pas vers le retour à la normale. À quelques centaines de mètres, on voit flotter le drapeau syrien. La réouverture de la seule frontière entre les deux pays est célébrée des deux côtés. Elle avait été fermée il y a 4 ans à cause de l'implantation du front djihadiste Al-Nosra, qui avait également provoqué la suspension de la mission de l'ONU chargée de faire appliquer le cessez-le-feu entre les deux pays. Cet été, la zone syrienne est repassée sous le contrôle gouvernemental et après des mois de tensions dans ce secteur, Israël se félicite du retour de l'ONU, dit le major Burke, qui fait la coordination avec les casques bleus.
Maintenant que le passage est ouvert, on attend de l'ONU qu'elle retrouve sa capacité à faire respecter l'accord de 1974 par les deux parties, en faisant en sorte que les groupes qui sont menaçants restent à distance.
Cette frontière sera ouverte sur des créneaux très limités, uniquement pour les troupes de l'ONU. Les Druzes qui vivaient à cheval sur les deux secteurs devront encore attendre.
Et puis la Syrie et l'Irak annoncent la réouverture prochaine du poste frontière de Boukamal dans la province syrienne de Deir ez-Zor. Avant la guerre, c'était l'une des artères stratégiques pour le transfert de marchandises entre les deux pays. 2 semaines après la mystérieuse disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le consulat saoudien d'Istanbul devait être fouillé aujourd'hui et la police turque affirme disposer d'un enregistrement audio prouvant que le journaliste a bien été tué dans ce bâtiment. Dans le même temps, les États-Unis, alliés de l'Arabie saoudite, disent vouloir faire la lumière sur toute cette affaire et Donald Trump s'est entretenu tout à l'heure avec le roi Salman d'Arabie saoudite. On retrouve Grégory Phillips à Washington.
En fin de semaine dernière, Donald Trump promettait un châtiment sévère à l'encontre de l'Arabie saoudite s'il était prouvé que Riyad était impliqué dans l'assassinat de ce journaliste qui vivait en exil aux États-Unis et collaborateur régulier du Washington Post. Cette fois, le ton est différent. Juste avant de décoller pour la Floride sinistrée par l'ouragan Michael, le président américain explique qu'il vient de s'entretenir au téléphone avec le roi Salman et Trump annonce que son secrétaire d'État s'envole dès maintenant pour Riyad.
Mike Pompeo va en Arabie Saoudite. On va explorer toutes les pistes. Et ceci étant posé, le roi dément catégoriquement être au courant de quoi que ce soit. Je ne veux pas parler à sa place. Mais il me semble que ça pourrait être aussi l'œuvre d'éléments incontrôlés, de voyous. Qui sait ? On va essayer de faire toute la lumière. Mais le démenti du roi était catégorique.
Le démenti du roi ne pouvait pas être plus convaincant, dit encore Trump. En envoyant Pompeo à Riyad, la Maison Blanche montre qu'elle veut suivre cette enquête au plus près, tout en faisant très attention à ne pas froisser l'allié saoudien. Sur CBS hier soir, Trump a bien précisé qu'il ne comptait pas perdre les nombreux contrats militaires passés entre des firmes américaines et le royaume wahhabite.
Grégory Phillips, l'ONU lance un cri d'alarme pour l'Afghanistan. Selon les Nations Unies, au moins 3 millions de personnes sont menacées par la famine. Les Afghans sont en situation d'urgence alimentaire absolue du fait de la sécheresse, car il n'a pas assez plu ni neigé l'hiver dernier. Les explications de Sonia Ghezali depuis Kaboul.
Les fourrues se sont multipliées dans les rues, les jardins et les arrières-cours des maisons à Kaboul. De nombreux habitants de la capitale afghane ont dû creuser à nouveau leurs puits asséchés à plus de 100 mètres de profondeur parfois, afin de trouver de l'eau. À Herat, dans l'ouest du pays, de nouveaux camps de fortune ont fait leur apparition ces 4 derniers mois sur le bord des routes. Des familles entières de fermiers s'y sont installées après avoir fui leurs terres, devenues arides au cours de l'année passée. Les éleveurs de bétail racontent comment ils ont perdu leurs bêtes, sous-alimentées, succombant aux maladies. Dans la province de Badris, fortement touchée par la sécheresse, les tentes spartiates des déplacés se sont multipliées dans la capitale provinciale, Qalaenaw. 60 000 personnes y vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Au total, au moins 3 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire de crise, alarme l'ONU. Si rien n'est fait pour les secourir, elles risquent la famine. L'inquiétude est d'autant plus accrue que le pays montagneux entre dans l'hiver, exposant tous ses déplacés internes et toutes les familles qui n'ont pas quitté leurs terres aux maladies et à des conditions de vie encore plus difficiles. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires en Afghanistan indique que le nombre d'Afghans en situation d'insécurité alimentaire est l'un des plus élevés au monde. L'organisation onusienne appelle à une réponse urgente et se donne jusqu'à mi-décembre pour apporter une aide aux populations exposées à une disette dont les conséquences seraient terribles.
Sonia Ghezali, la correspondante de RFI et France Culture en Afghanistan. Avant de vous quitter, je vous donne le dernier bilan, toujours provisoire, des intempéries dans l'Aude. La préfecture fait état de 11 morts, 1 disparu et 8 blessés. Demain mardi, il y aura encore des pluies près de la Méditerranée. De la Bretagne au sud-ouest, des pluies faibles le matin, des éclaircies l'après-midi et sur le reste du pays, un temps calme et souvent ensoleillé. Il fera entre 8 et 18 degrés demain matin, 16 à 22 l'après-midi, 22 à 26 sur un grand quart nord-est. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.